Ce qui est commun, c'est évidemment un événement extraordinaire où des familles du monde entier peuvent se rassembler et ils le feront, elles le feront autour de la personne du successeur de Pierre. Donc ça, c'est déjà en soi un événement extraordinaire dans la vie d'une famille, de pouvoir se rendre à ce type de rendez-vous. Le Saint-Père a assuré sa présence le samedi soir et le dimanche pour la messe solennelle. Donc ça, c'est arrivé dans d'autres rencontres de la famille, mais pas chaque fois. Par exemple, à Mexico, le pape n'avait pas pu venir en 2009. Là, en 2012, il sera présent si Dieu le veut. Et donc ça, c'est déjà un très grand événement en soi, dans la vie du chrétienne et le cœur d'une famille. Maintenant, ce qui va être différent, je pense, d'abord le fait que un rassemblement a lieu tantôt en Europe, tantôt dans un autre continent. Mais là, Milan, c'est une ville extrêmement centrale en Europe. Donc c'est une occasion unique, à mon avis, non seulement pour les familles du monde entier, mais pour les familles européennes. Ce sera facile d'accès. Milan, c'est facile de toute l'Europe. Donc nous espérons vraiment que beaucoup de familles pourront venir. Ce qui aussi sera un peu la caractéristique qui a été présentée un petit peu ce matin, c'est qu'il y a toute une série de projets, d'activités, de chantiers qui ont été ouverts depuis quelques mois et qui vont un petit peu converger à ce moment privilégié. Alors, par exemple, cette enquête sur la famille ressources pour la société, c'est une très très grande enquête sociologique faite sur plusieurs pays pour montrer comment la famille véritablement et concrètement participe au bien commun d'une façon tout à fait positive, mais aussi de façon négative. Il faut aussi montrer que là où la famille vient à manquer et son équilibre déstabilisé, eh bien à ce moment-là, on s'aperçoit que c'est un terreau favorable pour des croissances difficiles pour des jeunes et parfois même aussi pour une délinquance, hélas. Alors, et puis il y a aussi ce document d'aide pastorale à la préparation au mariage que nous espérons pouvoir offrir pour le même temps. Donc, si vous voulez, vont converger un certain nombre de choses qui me semblent opportunes. Tout arrive en même temps, aura une grande répercussion, je crois.
Alors, on constate, Mgr Laffitte, que ce document, justement, de préparation mariage suscite beaucoup d'intérêt. Est-ce à dire que c'est un des problèmes que vous ressentez comme particulièrement aigu, particulièrement sensible à l'heure actuelle?
Écoutez, je crois que, enfin, on essaie d'éviter de voir les choses d'abord comme un problème. On essaie d'abord de voir les choses comme elles existent, et il existe une quantité de propositions de préparation au mariage qui sont positives et qui marchent, mais qui sont très différentes les unes des autres au fur et à mesure qu'on va dans des différents pays, églises, diocèses, et même parfois au sein même d'un diocèse. Vous savez très bien que d'une paroisse à l'autre, parfois vous avez des endroits où vous avez une proposition extrêmement structurée, sérieuse, 10, 12 rencontres qui se suivent tout au long d'une année, etc., une retraite éventuellement, et d'autres où les prêtres font ce qu'ils peuvent parce qu'ils n'ont pas de temps, ils sont seuls, il n'y a pas de couple formé et où il y a peu de choses. Alors, ce qu'il faut, le problème, alors si on le pose en termes de problème, c'est effectivement offrir un certain nombre de conseils, d'orientations qui permettent que chaque préparateur et chaque pasteur puissent aider de façon efficace. De quelle manière? En ne laissant pas dans l'ombre des problèmes essentiels. Comprenez qu'on peut pas déjà ne peuvent pas se préparer au mariage et à la fois laisser tout à fait dans l'obscurité le fait de savoir s'ils vont continuer à pratiquer leur foi, si les enfants seront baptisés et s'ils seront baptisés jeunes, s'ils seront catéchisés. Aujourd'hui, vous avez des gens qui se marient à l'église et qui un an après ne font pas baptiser leur enfant. Alors vous comprenez que il y a toute une série de problèmes de ce genre, mais l'ensemble de la question n'est pas un problème général. C'est une façon que dans l'église l'expérience bonne des uns puisse profiter à d'autres. C'est une intention d'évangélisation. Ce n'est pas une intention d'établir de nouvelles normes ou des normes plus sévères ou plus serrées. Ça peut être utile dans certains contextes et ça serait inutile dans d'autres.
Malgré la diversité des situations d'un pays à l'autre, vous pensez pouvoir proposer un texte qui puisse servir à toute l'Église ?
Il faut vraisemblablement, si c'est possible, faire plusieurs propositions. Et d'autre part, au moins faire état dans un tel texte de la variété des richesses qui sont proposées un peu partout. Dans un texte de ce type-là, vous ne pouvez pas être simultanément utile à tous. Bon, là, il faudrait dire que des évidences, des portes ouvertes, des lieux communs. Alors là, effectivement, tout le monde serait d'accord, c'est bien d'aimer. Bon, alors, tout le monde est d'accord partout. Mais en revanche, il y a des questions qui touchent une majorité de contextes. Par exemple, dans les pays occidentaux, c'est vrai qu'il y a une difficulté par rapport à la fidélité, par rapport au don de la vie, par rapport à l'exercice de la sexualité, l'union conjugale, etc. Il y a une sorte, si vous voulez, de flou. Et les jeunes eux-mêmes et les fiancés, quand ils viennent se préparer, sont parfois perdus parce qu'ils ne sont pas au clair exactement avec ce qu'ils désirent. Or, ils désirent quelque chose, sinon ils ne viendraient pas trouver le prêtre pour venir se marier à l'église. Personne ne les oblige à se marier à l'église. Donc je dirais, oui, je crois qu'il est possible d'être utile au plus grand nombre, on va dire, on va être modeste, pas à tous, mais disons au plus grand nombre, en rejoignant les personnes dans les questions les plus profondes qui sont communes à tous les hommes. Pourquoi rester toujours avec la même épouse ? C'est une question qu'un Chinois, un Costaricain ou un Zimbabwéen peut se poser. Tout le monde se pose cette question. Ma vie peut durer 30, 40, 50, 60 ans, ma vie d'adulte, et aujourd'hui il y a une tendance quand même à l'allongement de la vie. Pourquoi l'exigence de l'amour inclut cette exigence d'indissolubilité et de fidélité jusqu'à la mort ? Pourquoi ? Eh bien, ce type de questions, ce sont des questions qui sont à la fois anthropologiques et à la fois spirituelles et théologiques. Donc, nous avons le devoir de témoigner de notre foi chrétienne et de montrer la richesse de ce que l'Église offre, mais dans le même temps, nous avons à faire l'effort nous-mêmes de rejoindre les personnes dans les questions qu'elles se posent profondément.
Encore une question pour en revenir à la rencontre de 2012 à Milan. L'accent sera mis, entre autres, sur le travail. Pourquoi ce choix ?
Oui, entre autres, je dirais, si on isole un des éléments, ça donne une certaine connotation. En réalité, c'est que la vie familiale, elle comprend deux grandes parties. Il y a à la fois l'activité, qui quand même prend beaucoup de temps, 7, 8 heures, 9 heures, ça prend beaucoup de temps quand même, je trouve. Donc le travail, on ne peut pas éviter cette question-là. Et les questions que se posent en particulier les mères de famille est toujours liée à l'articulation entre la vie familiale et le temps consacré à l'activité. Parfois du mari qui travaille beaucoup et donc que ses enfants voient peu, mais parfois de l'épouse elle-même qui est obligée de faire garder ses enfants, etc. Alors le travail est un élément important, mais en même temps, l'élément de fête, l'élément festif, veut dire que la vie de la famille ne se limite pas simplement à ses données économiques. Nous travaillons, nous avons une subsistance, nous achetons une maison, nous préparons l'avenir de nos enfants et c'est terminé. Mais en réalité, dans une vie familiale, il y a tous les moments gratuits, les moments de rencontre, les moments de fête, il y a les anniversaires, il y a les fêtes religieuses, les grandes occasions, il y a les rencontres d'autres familles, etc., qui sont des moments de fête et qui sont symbolisés par le jour du Seigneur, bien sûr, qui est la première fête par excellence, qui est le dimanche. Que faisons-nous le dimanche pour sanctifier ce jour du Seigneur ? C'est pas simplement en le sanctifiant par notre prière et notre participation à l'Assemblée dominicale, mais aussi par une façon différente de vivre en famille, d'avoir davantage le temps les uns pour les autres, de faire des choses qui nous plaisent, que nous aimons, et c'est cela aussi le sens du mot fête. Donc c'est le travail et la fête, les deux vont ensemble, je crois, dans ce thème général.